Nous allons réfléchir un peu et tenter de discuter la signification du mot tradition. Après tout, c'est un des termes les plus utilisés, à la fois au sein même de la religion et des porteurs du discours de cette religion, et des savants de l'approche scientifique des religions. Et peut-être que ce mot, à cause de son ambiguïté, dû pour une large part à son universalité, en tout cas au caractère extrêmement général et non critique le plus souvent de son emploi, peut-être que ce mot est un de ceux qui constituent une des pierres d'achoppement de l'approche scientifique des religions. Alors, ce que l'on entend généralement par tradition, c'est évidemment la transmission. La transmission d'un enseignement, de croyances, de pratiques, et également de symboles, de signes, et puis d'objets matériels, de toutes sortes. Au sein des religions, ça peut être un livre, bien sûr. Ça peut être aussi des bâtiments, des cathédrales, des temples, des ouvrages sacrés, consacrés. Bref, c'est tout cela qui constitue la tradition. Autrement dit, c'est le bien commun d'une société à un moment donné qu'elle décide, qu'elle juge utile et de valeur suffisante pour être transmis aux générations qui viendront après. Il y a donc l'idée d'un temps dépassé, d'une contrainte qu'est toujours la temporalité et ses limites, dépassée par et au moyen de la tradition. La tradition qui fait franchir les bornes de la chronologie et de l'histoire. Maintenant, approchons-nous un petit peu plus de ce mot pour essayer d'envisager certaines de ses significations qui passent, hélas, souvent un petit peu inaperçues. D'abord, peut-on parler de tradition quand la transmission qui est faite sans intention particulière de fournir à une génération qui vient, qui monte, des choses acquises lors d'une génération antérieure? Autrement dit, est-ce que la tradition implique forcément une disposition, une volonté consciente, réfléchie, un effort pour transmettre, ou bien n'est-elle qu'une mécanique sociale par laquelle est transmis un héritage de génération en génération? Que cet héritage soit d'ordre religieux, qu'il soit d'ordre linguistique, qu'il soit d'ordre culturel plus généralement, peu importe. Quand on parle de tradition au sens religieux, on parle plus souvent d'une tradition consciente, volontairement transmise d'une génération à l'autre. En vérité, ce qui fait la tradition religieuse, c'est peut-être moins la notion de transmission que celle de la conscience d'un effort qu'il y a à faire, à fournir pour que cet enseignement, ces savoirs, ces pratiques, ces croyances, etc., parviennent de générations postérieures. On parle aussi de tradition quand il s'agit non pas de transmettre, mais de recevoir. Recevoir une tradition, c'est-à-dire faire acte conscient, réfléchi, volontaire, de réception d'un enseignement, d'un savoir, d'une pratique, etc., d'un croire, faire acte de réception, eh bien, cela aussi s'appelle tradition. On voit que on peut tourner le terme dans deux sens au moins, celui qui désigne la volonté de transmettre et celui qui désigne la volonté, la conscience de recevoir. Maintenant, si l'on veut et si l'on doit avoir une approche critique, et l'on s'aperçoit très très vite que ce qui constitue la transmission ou la réception consciente et volontaire ne constitue qu'une partie infime de ce qui est effectivement transmis et reçu, et qu'une très grande partie de ce qu'un état temporel de la société lègue un état ultérieur, qu'une immense partie n'a rien à voir avec la volonté et la conscience. La conscience réfléchit, que c'est de l'ordre d'un déterminisme structurel, en tout cas, que c'est lié à une logique dont les agents sociaux sont les porteurs, les acteurs, mais dont ils n'ont absolument pas la maîtrise. Étudions d'un peu plus près ce mécanisme. Bien entendu, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de le rapporter, de le ramener au fait qu'une société cherche à se reproduire, que les agents le veuillent ou non. La reproduction étant un phénomène vital lié à la biologie la plus fondamentale, eh bien, une société qui est constituée de vivants et d'êtres qui tendent à se reproduire tend elle-même, collectivement, globalement, à se reproduire, c'est-à-dire à se perpétuer dans le temps et à s'étendre dans l'espace, dans la mesure de où cette reproduction dans le temps l'amplifie et lui donne davantage de membres. Alors pourquoi une société veut-elle ou cherche-t-elle naturellement, c'est-à-dire sans que ce soit réfléchi, volontaire de la part des agents, pourquoi cherche-t-elle à se reproduire? En fait, tout se passe comme si les jeux, les enjeux que les agents mettaient dans leur activité, dans leurs interactions sociales, les relations qu'ils entretenaient avec tous les autres agents dans le champ où ils évoluaient, et par rapport aux autres champs vis-à-vis duquel ils sont en concurrence, comme si les agents tendaient à reproduire ce jeu au-delà d'eux-mêmes, comme si leur propre jeu ou le temps qu'ils mettaient à jouer n'était pas suffisant pour leur faire gagner la partie. On voit donc que l'individu n'est pas le but ultime du jeu social, qu'il est un joueur. Et que le joueur, finalement, est toujours pris au jeu. Il est si bien pris au jeu que son but, un de ses buts principaux, en dehors du fait de gagner, bien évidemment, est de continuer le jeu. De continuer le jeu malgré d'éventuelles défaites provisoires, de continuer le jeu juste par-delà lui-même, au-delà de lui-même, à travers ses enfants, à travers ses descendants, jusqu'à ce qu'il gagne, jusqu'à ce que quelque chose de lui ou qui vient de lui remporte une victoire qui sera elle-même bien sûr toujours provisoire, qui sera à protéger, à conserver, à maintenir. Et quoi de plus puissant pour maintenir cette victoire que la reproduction du jeu social? On est souvent étonné devant la passion que les joueurs mettaient à continuer le jeu malgré d'éventuelles défaites et parfois malgré des victoires. Comme si la passion du jeu constituait véritablement une compulsion à persévérer dans une certaine manière d'organiser les relations. Comme si c'était cette organisation des relations qui cherchait à se perpétuer à travers les joueurs et à travers le jeu des joueurs. Bien entendu, et ça on le sait depuis longtemps, le but principal de la victoire dans le jeu, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas un enjeu précis, matériel, déterminé, bien que ça puisse passer par là. L'enjeu matériel n'est qu'un médiateur. L'enjeu essentiel, c'est le point d'honneur. Il faut gagner parce que gagner, eh bien, c'est être vainqueur. Et il n'y a rien de plus agréable, de plus jouissif pour un agent que de gagner, de profiter, d'augmenter son capital d'honorabilité. C'est ce que dans certaines sociétés on appelle aussi la gloire. La gloire, d'ailleurs, qui est paradoxalement ce qui donne son sens au mot doxa, qui veut dire à la fois l'opinion, la croyance commune et la gloire. La gloire, c'est l'enjeu clé de tous les jeux, y compris de celui qui cherche à l'acquérir, à la prolonger, à la persévérer, cette gloire, à travers lui-même, par-delà lui-même, dans les générations qui viennent. Pour gagner, renforcer, amplifier cette gloire, il faut occuper de la place, le plus de place possible. Il faut réfléchir maintenant de plus près à la tradition en ce qu'elle est pas inégale, également répartie. Je veux dire par là qu'il y a dans la société des agents, des groupes d'agents plus intéressés à perpétuer la tradition ou à recevoir la tradition que d'autres. Voyons d'abord quels sont les agents les plus indifférents à la tradition. Dans quel champ social se recrutent, si l'on peut dire, les agents qui attachent le moins d'importance à la tradition, et à la tradition religieuse en particulier.